Éphésiens chapitre 5, pourrions commencer la lecture à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière, c'est pour ça qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen.
Amen.
La parole de Dieu nous montre que devant Dieu, il n'y a pas 36 catégories d'êtres humains. Il y en a deux. Il y a les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Hein, il n'y a pas les enfants de la pénombre, les enfants du demi-jour, les enfants du clair-obscur, qui était cher à Rembrandt. Non, les enfants de lumière appartiennent à Jésus-Christ. Il est leur bon berger. Et ils le suivent. Ce n'est pas qu'un détail. Ils le suivent. C'est Jésus qui a dit dans Jean 8:12 « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La parole de Dieu met en opposition, d'ailleurs, on voit les œuvres des enfants de lumière et les œuvres des fils des ténèbres. Les œuvres des fils des ténèbres, bien sûr, ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont infructueuses dans le sens où elles ne portent aucun fruit pour le ciel. Par contre, lorsqu'il est parlé des œuvres de la lumière, il est parlé du fruit. Hein, verset 9, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Les enfants de lumière sont reconnaissables, en fait, qu'ils produisent un bon fruit. L'apôtre dira aux Romains, « Mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Voilà un beau programme. Amen. Alors, bien sûr, il y a deux mots là, « affranchi », « esclave » dans cette phrase-là. On peut se dire, « Mais attends, c'est des mots qui sont tout à fait contraires. Ils sont opposés. » En fait, ils ont un sens très fort, l'enfant de lumière, et vous le savez, bien sûr, j'ai rien à vous apprendre d'ailleurs cet après-midi, vous savez tout, mais je vous rappelais simplement quelques vérités. Hein, l'enfant de lumière, il vit dans une glorieuse liberté par rapport au péché. Il a été délivré de l'emprise du péché, étant sanctifié, il a été rendu capable de servir son Seigneur, non pas selon ses propres désirs, selon ses propres conceptions, mais selon la pensée divine. Et c'est très important. Et pour lui, accomplir la volonté de Dieu n'est pas une contrainte, mais elle est un glorieux privilège. C'est un glorieux privilège d'accomplir la volonté de Dieu. L'enfant de lumière, il est affranchi, il est libre. Et pour son bonheur éternel, il s'est mis au service de son libérateur. Un employé, il est au service de son patron, si le temps légal, ça va être 35 heures en ce moment, il y en a qui en font moins, il y en a qui en font plus d'ailleurs. Mais l'esclave, il a ceci de particulier, vous le savez bien sûr, qu'il est attaché à son maître 24 heures sur 24, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de coupure. Être esclave de Jésus, c'est ne plus vivre pour soi-même, mais c'est vivre pour Jésus et avec lui dans une communion d'amour. C'est vivre avec lui dans une communion d'amour. 2 Corinthiens 5,15 nous dit qu'il est Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ne vivent plus pour eux-mêmes. Ouh là là. Je crois que dans ce 21e siècle, je sais pas, j'ai le sentiment que cette vérité du christianisme a tendance à être un peu négligée, rejetée, un ne plus vivre pour soi-même. Ah non, réalisez-vous, etc. Vous connaissez toute la suite. Et pourtant, comment avoir vraiment la lumière de la vie en vivant pour soi-même? Le chrétien moderne, il veut vivre un peu pour son Seigneur et beaucoup pour lui-même. Il se veut des distractions, il se veut beaucoup de choses, il veut bien faire quelque chose pour Dieu, mais à condition d'y trouver du plaisir pour sa chair. C'est tout le problème d'aujourd'hui. Et même certains, on voit que certains veulent même mettre leur passion au service de Dieu. Alors ça, c'est un petit peu un peu étonnant, mais vous savez, moi j'ai quand même réalisé quelque chose, j'ai pas compris grand-chose, mais jusqu'ici j'ai quand même réalisé quelque chose, c'est quand le Seigneur, à chaque fois qu'il m'a demandé quelque chose, c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire. C'est quand même ça, c'est terrible, hein. Et oui, par nature, vous savez, je suis pas du genre, à, comme on dit les gens, à me mettre dans la lumière. Moi c'est plutôt à m'installer au dernier rang, baisser la tête, j'écoute, je regarde. Mais bon, c'est ma nature, ça. Bon, un jour, le Seigneur, c'est vrai qu'il m'avait mis à cœur d'aller à la chorale. Bon, je disais, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je chante comme une casserole. Bon, il y a de la concurrence en ce moment, hein, enfin, dans les rues. Mais je disais, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette pensée? Je la rejetais constamment. Je dis, non, c'est pas possible, Seigneur. C'est toi qui me mets ça à cœur. Je dis, c'est pas possible, c'est dans ma tête. C'est... Bon, et puis, un dimanche matin, ça revenait encore au culte. Écoute, Seigneur, vraiment, si quelqu'un m'invite à aller à la chorale avant que je sorte de ce lieu, j'irai. Ah, écoutez, c'est quand même courageux, non? Il me semble. Eh bien, je salue Roger Copin, qui est à l'entrée. J'étais arrivé presque sur le trottoir dehors. Et je me disais, ouf, je vais échapper à ça, c'est pas possible que j'aille à la chorale. Il sort, il me rattrape par le bord, frère. Ce serait bien que vous alliez à la chorale. Comme quoi, c'est vrai, quand on veut servir le Seigneur, il faut renoncer à ce qu'on aime. Parce que moi, chanter, tout ça, c'était pas mon truc. Je n'avais pas envie. Quand le Seigneur m'a conduit à porter la parole, c'était pareil. C'était pas mon genre de mettre en avant. Le Seigneur est maître de toutes choses et il nous appartient de mourir à nous-mêmes, d'avancer sur ce chemin du renoncement afin de pouvoir servir le Seigneur comme il le désire et comme il le veut, non pas selon nos conceptions humaines. Ah bien évidemment, il existe la joie du service, c'est sûr, mais nous la trouvons qu'en suivant le Seigneur, qu'en renonçant à soi-même. La vraie joie, vous savez, c'est le fruit de l'esprit. Elle se reçoit dans la lumière. Sinon, elle est charnelle, elle est passagère, elle s'éteint très vite. Et ça nous amène très vite à baisser les bras dans le service. Parce que, bien sûr, c'est une joie passagère, c'est un engagement qui n'est pas un engagement spirituel avec le Seigneur. Le vieux moi, vous savez, bon, bien sûr, on le sait bien, il n'est pas contre un petit culte du dimanche matin, le vieux moi, pourquoi pas. Une petite prière le soir avant de se coucher, ou une petite lecture du calendrier, mais le reste, ça lui appartient. Il veut se sentir libre, il veut faire ce qui lui plaît, il regarde même les fidèles de la parole en les taxant de légalistes, fanatiques. Eh oui. On a connu ça, des termes qui nous ont été attribués comme ça. Alors, il peut y avoir une part d'ombre qui vienne entacher peut-être la vie de celui qui est appelé à être un enfant de lumière. Quand au lieu d'être un reflet du Seigneur, il va préférer se mettre lui en avant pour imposer sa conception charnelle des choses, ses raisonnements. Aujourd'hui, on raisonne avec la parole de Dieu. Si on écoute certains, il ne reste plus rien des textes. Hein, il n'y a plus grand-chose pour nous. C'était pour Paul, c'était pour les disciples, c'était pour un tel. Il n'y a plus rien pour nous. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que certains vont même jusqu'à cacher leur foi, c'est vrai, au lieu de la publier. Et toutefois, un enfant de lumière qui marche au milieu du monde de ténèbres, cela ne peut pas passer inaperçu. Vous savez ce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, sur le porte-lampe. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. C'est notre part, hein. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, il y a un certain temps, disons 75 ans, à l'école du dimanche, il y avait un petit gamin qui avait tout juste 10 ans. C'est ce qu'il chantait. Je suis la lumière, a dit le Seigneur, avec moi mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre. Brillons, brillons bien. Toi, dans ton coin sombre, et moi, dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ranimons le feu. Et la troisième strophe disait, quand le jour se voile, au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le plus humble des chrétiens, il brille au milieu de ce monde, s'il appartient à Jésus et s'il veut faire sa volonté. Alors c'est vrai qu'il y a des passages qui sont encourageants, rassurants pour les fidèles. 1 Jean 1,7 « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » C'est bon de marcher dans la lumière. Hein? Rendez compte, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. On comprend là toute la puissance, toute l'efficacité permanente, permanente, du sang de Jésus dans nos journées, je dirais dans nos journées de créatures imparfaites. Eh oui, ben oui, il faut le reconnaître. Bien sûr. Et on lit bien, hein, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est pas écrit, le sang de Jésus nous purifiera. Il nous purifie, c'est dans le temps présent. Amen. Alors à la création, Adam et Ève, c'était quand même des enfants de lumière, non ? Croyez pas ? Ah, ils sortaient des mains de Dieu. Ils étaient sans péché. C'est quand même quelque chose. Mais c'est vrai qu'après avoir désobéi, ils étaient conscients de leur nudité physique. Mais je me suis interrogé, je pense que vous aussi peut-être, mais pas seulement. Pas seulement. Ils ne pouvaient, étant donné qu'ils sortaient des mains du Créateur, ils ne pouvaient qu'avoir un reflet extraordinaire sur eux. Hein, pensez, je ne sais pas, à la beauté physique d'Ève, une belle femme, quelle belle femme, en dehors de son beau visage, son corps magnifique, elle resplendissait de pureté, de sainteté. Puis Adam, quel bel homme Adam, il était resplendissant de la gloire de son Créateur. Il ne pouvait que rayonner, et en plus leur Créateur, l'Éternel, les visitait dans le jardin. Ça devait être extraordinaire quand même. La parole de Dieu, elle nous dit que Moïse, par exemple, quand il parlait avec Dieu, et quand il ressortait de la tente d'assignation, il avait un reflet d'origine divine. Les fils d'Israël ne pouvaient même pas fixer son visage, tellement c'était un rayonnement qui était très fort. Alors, moi, je ne sais pas, ça me fait penser, bien sûr, au Seigneur. Vous savez ce qui est écrit dans Ésaïe 53 ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Tiens, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quel abaissement, rendez compte, quel abaissement pour venir nous sauver. Il s'est dépouillé de sa gloire. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Quel dépouillement. Lui, le Seigneur. Rendez compte. Moïse, lui, reflétait un reflet extraordinaire. Bon, Adam et Ève, à l'origine, ils ont eu ce reflet extraordinaire. Et puis, je remarque que quand Jean a vu son Seigneur glorifié, il tombait comme mort. Pourtant, Jean, c'était certainement l'un des disciples qui connaissait le mieux le Seigneur, qui était le plus proche. Hein, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force. Alors, en ce qui concerne Adam et Ève, il y a eu une prise de conscience. À cause du péché, ils avaient perdu l'éclat divin. Ils étaient nus physiquement, mais ils ont tout à coup compris la nudité spirituelle qui leur était arrivée. Le péché les séparait de Dieu. Hein, Dieu avait dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Ils étaient morts. Adam et Ève étaient morts. Étaient morts. Pas leur corps, pas leur âme, mais spirituellement, leur esprit était devenu dans un état de mort. Et quand ils se sont regardés l'un l'autre, ça a dû leur faire drôle. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Nous aussi, nous étions dans un état de mort avant d'avoir reçu Jésus. Hein. Éphésiens 2, 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et ce n'est qu'après nous être repentis que nous sommes nés de nouveau. Né en esprit par l'action du Saint-Esprit. Le diable avait dit à Ève, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Hein, leurs yeux sont ouverts, mais pas sur ce qu'ils avaient pu imaginer. Genèse 3,7 nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils pouvaient chercher un remède, hein, en cachant leur nudité physique. Mais il n'y avait pas de remède. Il n'y avait pas de remède pour remplacer leur pureté perdue et l'éclat divin. Alors vous savez qu'aujourd'hui, il existe la luminothérapie. Ah oui, on soigne les gens hein, avec la lumière. Hein, la dépression, les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur. Ah oui, différentes choses. Mais nous qui avons reçu Jésus, nous sommes destinés à nous exposer à l'éclat du soleil de justice.
Amen.
Pour le refléter. Cela, c'est l'excellent remède pour notre vie spirituelle et pour notre activité de témoin de Jésus-Christ. C'est vrai que Proverbe 3,6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies », Chouraki a traduit « Pénètre-le dans toutes tes routes et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Alors, dès le verset 3 de la Genèse, vous le savez, c'est écrit que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et vous avez remarqué que les grands luminaires n'ont été créés, n'étaient pas encore créés. Au verset suivant, il est écrit que Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Eh bien, c'est quelque chose qu'il nous appartient de faire, nous aussi, dans notre vie spirituelle, un travail de séparation. Vous connaissez le passage, bien sûr, de 2 Corinthiens 6, 17, qui nous invite à nous séparer de ce qui n'est pas pur. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Tout-Puissant. On ne va pas aller habiter dans une cabane au fond des bois ou dans la montagne, mais il doit y avoir quand même un travail de séparation par rapport à l'esprit du monde. Par rapport à l'esprit du monde. Sa manière de penser, sa manière d'agir. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, le monde entre de plus en plus dans l'Église de Jésus-Christ. Et ça, c'est attristant. C'est attristant. Asaph disait, enfin, si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Et quand Dieu s'adresse à Jérémie, il lui montre que pour parler de sa part à ses contemporains, il lui faut séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Mais n'oublions jamais que ici-bas, nous sommes la bouche du Seigneur. Hein? Nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds. Et nous sommes appelés, bien sûr, à un service de témoin à la gloire du Seigneur. Nous avons un travail de séparation qui ne peut s'effectuer que dans la lumière. Quand il est parlé de l'Église, vous connaissez le mot grec, ecclésia, qui signifie littéralement appelé hors d'eux. Nous avons été appelés hors du monde pour appartenir au royaume de Dieu. Nous avons été appelés à sortir des ténèbres pour arriver dans cette pleine lumière que le Seigneur nous a, qui était pour nous, cette lumière de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu a fait en nous une œuvre de nouvelle naissance et de séparation du monde, mais il nous appartient de veiller et de ne pas nous laisser reprendre, ni endormir, ni séduire. C'est pas pour rien que dans les dernières paroles du Seigneur, c'est veiller et prier.
Amen.
Hein, c'était dans le jardin qu'il a dit ça. Et ça fait partie de ses dernières paroles. Aujourd'hui, certains disent chanter, danser. Mais c'est pas ça. Les dernières paroles du Seigneur, c'est veiller et prier. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chanter, hein, bien sûr. On est bien d'accord. Bien sûr. Mais plus on est dans la lumière, vous le savez, plus on discerne les détails. Quand c'est pas très clair, on distingue pas certaines choses. Mais les petits défauts, ce qui va pas, on le voit davantage en pleine lumière. Et plus la lumière de Christ luit dans nos cœurs, et plus nous discernons les ténèbres qui peuvent s'y infiltrer, et qui peuvent infiltrer insidieusement nos vies. Inversement, plus nous sommes conciliants avec nos lacunes, nos faiblesses, plus nous allons laisser entrer les ténèbres et moins nous allons faire ce travail de séparation, plus nous allons perdre notre discernement. Et aujourd'hui, il y a une grosse perte de discernement chez les chrétiens. Nous avons besoin de réellement revenir à la parole. On peut constater même quelquefois qu'avec les années, chez certains enfants de Dieu, il y a un déclin qui n'est pas toujours d'un jour à l'autre, qui est très, très progressif, qui les amène bien sûr d'abord à la perte du premier amour et à un état de tiédeur. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? C'est vrai que le temps n'est pas toujours notre allié. Hein. Ne serait-ce pas une infiltration lente des ténèbres et de l'esprit du monde, que notre intelligence naturelle, que notre conscience même ne discerne pas, ne serait-ce pas une dérive imperceptible qui conduit à un relâchement dans la prière, dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu, dans le service. Nous avons besoin de rigueur. Nous avons besoin tous, autant que nous sommes, de rigueur dans notre vie spirituelle. Alors Éphésiens 5,14, je vous lis la traduction Tob. Je l'aime beaucoup ce verset-là, dans cette traduction-là. Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. Et sur toi, le Christ resplendira. Christine, sur toi, le Christ resplendira. Amen. Françoise, Anna, tout ça. Amen.
Amen.
Amen. Sur toi, le Christ resplendira. Amen. Quelle grâce. Combien nous avons besoin de resplendir de Jésus-Christ dans ces temps de confusion que nous vivons. Vous savez, quand Étienne s'est retrouvé devant le Sanhédrin, il est écrit que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Comme celui d'un ange. Il était rempli du Saint-Esprit, Étienne. Amen. Ça ne les a pas empêchés de le lapider. Hein. Et quand Christ resplendit sur un enfant de lumière, c'est pas la fin des difficultés. Ça ne plaît pas au monde. Hein. Le disciple n'est pas plus que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ce monde, il tâtonne en plein midi, comme dans la nuit. Il méprise la parole qui pourtant est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je vais bientôt terminer, ne vous inquiétez pas, ça peut être trop long. Par contre, les gens du monde sont très prudents. Par exemple, en ce qui concerne leurs autos, il y a des contrôles techniques. Bon, ça fait vivre tout le monde aussi, bon, c'est sûr. Enfin, les dirigeants ont institué des contrôles techniques pour se protéger, pour vérifier les véhicules, pour qu'ils soient toujours en bon état de marche. Bon, il existe aussi, par exemple, le check-up santé. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça existe. Hein. C'est l'examen prévention santé, un bilan auquel on a droit tous les 5 ans. Ça demande au moins 3 heures et c'est gratuit. Hein. C'est sans avance de frais. Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière, nous dit Luc 16:8. Est-ce que les enfants de lumière sont prudents et prennent le temps de faire de temps en temps, enfin, pas toujours se regarder, hein, pas toujours se regarder le nombril, c'est pas bon, mais excusez-moi l'expression, mais il est bon quand même de temps en temps de faire un check-up de notre vie spirituelle en nous plaçant dans la lumière, sans éliminer certains versets, certains textes de la parole, comme on le fait couramment aujourd'hui. Et nous savons que plus nous allons contempler Jésus, au travers des Écritures, nous pouvons le contempler merveilleusement, et plus nous allons lui ressembler, et plus nous allons nous démarquer du monde et de son esprit. Alors, encore un verset, c'est 2 Corinthiens 3, 18, que vous connaissez bien. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Dont l'éclat ne cesse de grandir. Ah ouais, nous ne sommes pas appelés à rester comme nous sommes appelés encore à progresser, à contempler davantage le Seigneur. Hein? Nous sommes transformés en son image. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. Et au jour du Seigneur, il est écrit, et Jésus l'a dit, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Christ rayonnera pleinement sur eux et en eux. Christ rayonnera pleinement sur nous et en nous. Amen. Nous serons rendus semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Gloire au Seigneur.